Regard sur la philosophie. Une chronique de Damien Leguet sur Canal Académie.
Consacrons donc notre regard sur la philosophie à Dieu et Darwin. Deux livres viennent de paraître, de Jacques Arnoux, Requiem pour Darwin chez Salvator, et le second livre de Jacques Arnoux, qui est une reprise d'un livre qui est paru il y a 2 ans et qui vient de paraître en poche, toujours de Jacques Arnoux, qui s'appelle « Dieu versus Darwin, les créationnistes vont-ils triompher de la science ?» Alors Jacques Arnoux a la particularité d'être d'une part scientifique, parce qu'il est docteur en histoire des sciences, et par ailleurs d'être docteur en théologie et d'être dominicain également. Donc c'est un homme qui est, disons, en dialogue permanent avec lui-même entre ce qui pourrait apparaître pour certains comme une opposition frontale, Darwin d'un côté, Dieu de l'autre. Face à cela, lui met en évidence 4 attitudes possibles. Soit ceux qui, du côté des chrétiens, et il pense en particulier à Karl Barth, ignorent la science et considèrent que la révélation est d'un autre domaine. Deuxièmement, ceux qui entrent en conflit, ce sont les créationnistes, les néo-créationnistes, ceux qui pensent qu'il y a effectivement non seulement un dessein intelligent de Dieu, mais que ce dessein intelligent de Dieu, qui apparaît évident d'une certaine façon, peut avoir aussi une version un peu dure, dirions-nous, qui laisse à supposer que la nature explique Dieu, est une preuve de l'existence de Dieu. Troisième attitude, une attitude, disons, plus irénique, plus convergente, qui laisse à supposer qu'effectivement, disons, que tout s'explique par ce Big Bang originel qui serait le geste créateur initial de Dieu. Et puis la quatrième attitude, qui est pleinement la sienne, et qui est celle du dialogue. Dans ses conférences, dans ses livres, Jacques Arnoux dit souvent qu'il est effectivement plutôt sur un pont entre deux rives, et qu'il importe de passer d'un côté et de l'autre pour mieux comprendre ce que dit la science, et donc de considérer ce que la foi chrétienne, elle, est capable de comprendre et ou d'apporter. Alors, comment poser ce débat? Comment lui, dans ses 2 livres, pose-t-il ce débat? Pour bien comprendre cela, je voudrais partir d'une question que je vous pose, et qui est la suivante. Que s'est-il passé, selon vous, au matin, c'est-à-dire à 9h du matin, le 17 septembre 3928 avant Jésus-Christ? Alors, bien malin celui qui peut y répondre, eh bien, je vais vous donner la réponse. À ce moment-là, donc, Dieu a créé le monde. C'est du moins ce que dit en 1644 John Lightfoot, qui était vice-chancelier de l'université de Cambridge, qui était un helléniste distingué, et par ailleurs aussi prêtre anglican. Alors, vous me direz, tout ça paraît un peu ridicule. Et pourtant, on peut dire que d'une certaine façon, pendant longtemps, pendant très longtemps, jusqu'à la fin du 18e et sans doute un peu plus tard au début du 19e, les certitudes religieuses et les certitudes scientifiques en ce qui concerne l'histoire naturelle étaient convergentes. Et donc le point, le moment véritablement de rupture a été en 1859, la publication du livre de Darwin. Alors certes, me direz-vous, Buffon, vers 1750, auteur de l'histoire naturelle de l'homme, a changé un tout petit peu la donne. Jacques Arnoux dit même qu'il y a eu avec Buffon une coupure radicale entre la science de la nature et la théologie de la création. Il faut, dit Buffon, ne pas mêler une mauvaise physique avec la pureté du livre saint. Mais quand on demande à Buffon quel est l'âge de la Terre, celui-ci répond environ 75 000 ans. Donc, pourquoi est-ce que tout change avec Darwin? Et ça, Jacques Arnoux l'explique bien. Pourquoi tout change avec Darwin? Pourquoi est-ce que le 24 novembre 1859, quand il publie « L'origine des espèces », il y a comme une coupure, une véritable coupure, avec toutes les croyances précédentes? Pourquoi? Parce que essentiellement, il y a l'idée d'une évolution et l'idée d'une adaptation des espèces. Alors, vous me direz effectivement, bon, cette autonomie de la science, elle est antérieure. Disons, remontons-la rapidement à la fameuse révolution copernicienne, au procès de Galilée en 1633. Certes, pour beaucoup d'autres domaines de la science, cela est vrai. Mais pour l'histoire naturelle, donc, comme je l'ai dit, jusqu'à la fin du 18e, un peu plus tard, l'idée d'une conception fixiste, quelque chose qui est figé, des espèces vivantes dominent et dans la science et dans la théologie. Et donc, bon, on a vu avec Buffon, on pourrait le voir avec Linné, on pourrait le voir un peu effectivement avec Lamarck, qui considère qu'il y a une force organisatrice qui explique la complexité du vivant. Mais bon, la vraie rupture, la complète rupture, provient de Darwin. Alors Darwin est un gentleman farmer, à 22 ans, donc il est né en 1809, donc nous fêtons ses 200 ans. À 22 ans, il s'embarque sur un bateau et fait le tour du monde pendant 5 ans. Et là, aux Galapagos, il voit des espèces différentes de celles qu'il connaît. Et il se dit, tiens, pourquoi effectivement ces espèces sont-elles différentes? Comment ces évolutions se sont-elles faites? Comment opère cette sélection, cette modification? Et il réfléchit, il médite, il garde tout cela par-devers lui. Et puis en 1858, un autre naturaliste, Wallace, qui lui avait visité une autre archipel, avait élaboré une théorie un peu similaire à la sienne. Alors il décide, effectivement, le 24 novembre 1859, de publier ce livre, donc « L'origine des espèces ». Alors Jacques Arnoux montre bien que cette question qui a l'air d'une certaine façon un peu ancienne ou un peu peut-être dépassée, considérant qu'il y a deux plans, le plan de la science et le plan de la foi. Quant au ralliement de l'Église, il est bien évident qu'au début, toutes les autorités chrétiennes, qu'elles soient catholiques ou anglicanes, ont rejeté cette affirmation ou cette idée suivant laquelle il y avait évolution. Et donc, on a vu effectivement que cette évolution pouvait remettre en cause beaucoup de conceptions religieuses. Souvenons-nous donc d'un fameux débat, d'une dispute en 1860 entre l'évêque d'Oxford d'une part et puis Henry Huxley, défenseur de Darwin. Et tout le monde se souvient de cette fameuse question posée par l'évêque d'Oxford à Henry Huxley. Est-ce par votre grand-père ou par votre grand-mère que vous descendez du singe ? Alors évidemment, cette idée donc d'un Darwin qui fait remonter l'homme au singe et donc d'une filiation par le singe remettait frontalement en cause cette création ou cette idée d'une création ex nihilo de l'homme par Dieu seul, sans intermédiaire, de cette façon biologique. Alors, Jacques Arnoux montre bien que certains intellectuels ou certains religieux, comme en particulier Dalmas Leroy, ont très tôt pris position pour cette théorie, considérant qu'effectivement, il n'y avait pas d'incompatibilité. Bon, ce dominicain en question, Dalmas Leroy, a été sanctionné. Beaucoup d'autres, comme par exemple Teilhard de Chardin, ont été mis sous le boisseau. Et il faut attendre Humani Generis en 1950 pour que, dit le pape, la discussion à partir d'une matière déjà existante et vivante est autorisée. Donc on a commencé à partir de ce moment-là, effectivement, à réfléchir, à pouvoir considérer que cette idée de l'évolution, laquelle comment, pouvait être compatible et qu'on pouvait y réfléchir. Et puis, le grand moment, d'une certaine façon, c'est en 1996, Jean-Paul II qui dit clairement, officiellement, que l'évolution, il ne prononce pas le mot de Darwin, mais que l'évolution est plus qu'une hypothèse. Et dans ce même discours, il fait référence à l'un de ses prédécesseurs qui disait que la vérité ne peut pas contredire la vérité. Jacques Arnoux montre bien donc que cette question revient à l'ordre du jour sous l'effet donc des créationnistes, donc de ceux qui ont une lecture presque littérale de la Bible, créationnistes qui sont assez puissants dans le monde anglo-saxon d'une part, et encore plus puissants, semble-t-il, dans le monde musulman, avec en particulier l'Atlas de la création, donc signé par un certain Harun Aya, et qui veut démontrer que les espèces n'évoluent pas, et qui rend responsable Darwin de tous les maux de la Terre, le racisme, le communisme, l'athéisme, etc. etc. Voilà. Donc tout cela réactive, d'une certaine façon, cette question du conflit, de l'opposition entre l'évolution, l'évolutionnisme, et puis Darwin. Alors, il me semble qu'il y a six questions qui sont sous-jacentes et qui apparaissent dans les livres de Jacques Arnoux, et que Jacques Arnoux élucide d'une manière ou d'une autre. Donc il y a six questions sous-jacentes. La première, c'est l'idée donc d'une conception fixiste des espèces. On dit donc qu'il y a une fixité, ou on disait qu'il y avait une fixité des espèces. Mais s'il n'y a plus de fixité des espèces, Il y a donc des adaptations successives. Mais en fonction de quoi ? En fonction des lieux et en fonction du climat. Donc, si rien n'est fixe, alors tout est relatif. Et si tout est relatif, toutes nos certitudes peuvent être, d'une manière ou d'une autre, d'où la crainte de religieux trop attachés à la lettre des textes sacrés. Donc, tout est relatif et donc toutes nos certitudes, elles, peuvent, disons, disparaître ou s'évanouir. La seconde rupture, c'est la conception du temps. Donc, nous avons vu avec Lightfoot un univers ou une terre qui a été créée il y a 6000 ans. Buffon, lui, allait jusqu'à 75 000 ans. Nous sommes aujourd'hui, bien évidemment, dans une conception beaucoup plus large. Mais qui dit beaucoup plus large dit aussi que le temps n'est plus quelque chose que nous possédons ou quelque chose de courte durée, mais d'infinie durée. Et donc, il y a un effet de vertige de cette nouvelle conception du temps. Troisième question, s'il y a sélection, mais qui sélectionne ? Qui est susceptible d'opérer cette sélection ? Et selon quels critères ? Est-ce la loi du plus fort au détriment du plus faible ? Mais si c'est cela, à ce moment-là, donc il y a de l'inégalité dans la nature, et la nature, d'une certaine façon, valide l'inégalité qui pourrait se trouver dans les régimes politiques ou même dans l'idée de certains quant à l'inégalité des races. Quatrième point, eh bien le Dieu créateur là-dedans, que devient-il ? Si l'humanité est créée par Dieu, comme le disent ceux qui ont la foi ou ceux qui se rattachent aux textes sacrés. Alors, si l'humanité a été créée par Dieu, et si cette nature nous semble un processus qui ne répond qu'aux seules lois de la nature elle-même, à ce moment-là, où est Dieu ? Dieu a-t-il créé l'homme ? A-t-il créé le singe ? A-t-il créé une bactérie ? Donc cette idée du Dieu créateur est repoussée d'une certaine façon un peu plus loin, ou autrement, ou d'une autre façon, ce qui ne peut qu'ébranler les certitudes des religieux. Cinquième question, comment lire alors les textes sacrés ? On dit que le monde a été créé en 6 jours. Alors, 6 jours, comment faut-il entendre ce 6 jours ? Est-ce à dire que la Bible se trompe ? Comment faire la part des choses entre une lecture littérale, 6 jours, les 6 jours de la semaine, ou entre une lecture plus spirituelle ? Est-ce à dire que Dieu peut se tromper ou dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité réelle ? Est-ce à dire donc qu'il y a un premier degré, puis un deuxième degré ? Voilà. Comment lire les textes sacrés ? Sixième question, l'homme, et c'est là où effectivement où le bât blesse, l'homme a été créé dans la Bible à l'image et à la ressemblance de Dieu. Soit on considère effectivement que l'homme est au centre de la création, comme autrefois la terre était au centre de l'univers, soit on considère que l'homme vient après, qu'il est en bout de piste, en bout de création. Et si tel est le cas, à ce moment-là, l'idée de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'un homme qui serait au centre du dessein créateur de Dieu, prend une autre connotation, une autre appréhension. À cela, Jacques Arnoux dit, eh bien, il faut considérer que cet homme à l'image et à la ressemblance n'est pas un appel à la maîtrise, à la domination de la nature, mais plutôt un appel à la responsabilité. Et donc cet appel à la responsabilité, responsable du monde, responsable des autres, responsable de l'univers, responsable des ressources communes qui sont les nôtres, permettent, dit-il, de mieux comprendre cette idée centrale dans le judéo-christianisme d'un homme créé à l'image et à la ressemblance. Alors, c'est pourquoi il me semble absolument indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, parce que la position de Jacques Arnoux est extrêmement à la fois informée et mesurée, de lire, entre autres, ces deux livres, parce qu'il en a écrit d'autres sur le sujet. Donc, Jacques Arnoux, Dieu versus Darwin, qui vient d'être publié en poche chez Albin Michel. Et deuxième livre, donc de Jacques Arnoux, Requiem pour Darwin, publié chez Salvator. Merci.